bayebaki to boyebaki te bosangani mwasi na mobali okati ya basali ba Nations Unies mpe bana basi bayeba kokisi mibu 12 te ezali mbeba enene kozwa mwasi na makasi azala mokolo to elenge to kokana kosala ye mabe soki andimi kosangana na yo te ezali mbeba eye Nations Unies apesaka etumbu enene ezali mbeba enene moto asali ekela ena to soki oyebi likambo ya ndenge ena okoki koyebisa na biro ya MONUSCO na molobeli wa bayimboka to mpe kobenga ntango na kofuta na alo alo o nimero 0 9 9 9 7 9 4 mpe o nimero 0 9 9 7 9 8 0 0 0 basali ba MONUSCO mpe ba mangumba maso maoni maye mazwami o ekolo RDC bakoki koluka kozwa mbano yoko te na nzela ya bosangani na basi oyo ezali liyebisi ya Nations Unies lingomba ya molongo
Merci de votre fidélité à la radio de la paix, la radio Capi. Certains patients congolais se plaignent souvent de la qualité des services rendus dans les hôpitaux publics et privés de Kinshasa et des autres grandes villes de la RDC. Les diagnostics ne sont pas parfois bien posés et les coûts des soins de santé sont quelquefois exorbitants. Il y a également les erreurs médicales et l'insalubrité dans les pavillons de certains hôpitaux publics qui ne rassurent presque plus les patients sur la qualité des soins assurés dans ces hôpitaux. Comment améliorer les relations entre patients et prestataires des soins de santé dans les hôpitaux publics et privés de la RDC? Pour en parler, nous recevons dans ces studios le professeur Félicien Mundaï. Je rappelle qu'il est spécialiste en éthique médicale. Une fois de plus, professeur, bonjour.
Bonjour.
Qu'entendez-vous, professeur, par relation entre patients et prestataires des soins de santé?
Merci beaucoup d'ailleurs. Dans un premier temps, je souhaiterais préciser une qualité que j'ai retenue à moi. Je suis le président du Comité national d'éthique de la santé du ministère de la Santé publique ou de la Santé tout court.
Donc il y a une commission qui s'occupe uniquement de l'éthique dans le domaine de la santé ici en RDC.
Oui, nous avons un arrêté ministériel de 2006 et nous avons mis en place ce comité avec l'appui du secrétaire général Mkengesha de l'époque, maintenant il est au cabinet, je pense. C'est à ce titre-là aussi que nous parlons. Avec toutes ces gammes d'informations que nous détenons. Donc, nous sommes président du Comité national d'éthique de la santé, le CNS.
Merci pour cette précision. Oui, docteur, professeur, pardon. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Que comprenez-vous par relation entre patients et prestataires des soins de santé?
Bien, c'est très simple, mon cher ami. Si vous tombez malade, si quelqu'un tombe malade, du fait d'avoir un problème de santé, première idée, c'est se faire soigner. Dès ce moment-là, vous nouez cette relation entre vous, malade, avec les infirmiers, les médecins, l'assistance sociale et autres là, pour que vous retrouviez le bien-être. Vous déclenchez déjà, de par le fait d'être malade, cette relation-là.
Les premiers contacts, oui.
Voilà. Alors, le premier contact, c'est un contact psychologique. En famille, on le sent. Ah, de quoi souffres-tu? Tu es malade? Allons à l'hôpital. Si tu es au village, tu vas dire, mais écoutez, moi, je vais aller voir les traducteurs praticiens. Donc, vous déclenchez cette relation-là. Maintenant, où allez-vous? Si quelqu'un est au village, il peut aller voir un traducteur praticien. Parce que quand il n'avait pas d'hôpitaux, les Congolais se faisaient bien soigner. On va voir un exercice traditionnel.
Que l'on connaît bien, qui vit dans, au village, un phytothérapeute que l'on connaît bien, que l'on peut consulter en cas de maladie, en cas d'ennui de santé.
Exactement ça. Et c'est des relations, c'est une relation, à mon avis, modèle. Pourquoi? Parce que dès que celui qui vit au village va voir les guérisseurs, il est déjà dans son environnement. Il comprend, ah, celui-là, c'est la tante de, c'est la mère de, il est cousin A, il est parent A. Et il va, les guérisseurs les reçoit à bras ouverts, souriant, il peut même les mettre à côté de sa chaise ou de son lit, il parle, il peut parler même sorcellerie, il peut parler envoûtement, tous ces causes de maladie, et bien ils en parlent, en toute cordialité, en toute confiance. Et d'ailleurs, à l'époque même, encore aujourd'hui, le malade peut dormir même dans la même chambre, si pas dans la même maison, avec son guérisseur. Une relation de convivialité.
Avec les temps, la société a évolué, la médecine également. Il y a des hôpitaux estimés à travers les pays. Il y a les patients également qui visitent également ces structures de santé.
Voilà. Alors, nous nous posons la question, quel est l'état actuel de cette relation-là? Tous, comme on est que nous sommes, nous savons qu'aujourd'hui, cette relation est une relation conflictuelle. Une relation déshumanisée, c'est-à-dire où il n'y a plus l'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple, en fait. Si vous posez la question à un patient congolais qui est malade, allons à l'hôpital. Première chose, c'est l'inquiétude, l'angoisse.
Pourquoi?
Mais il sait que là, il va rencontrer des choses extraordinaires. Première chose, le simple accueil. Est-ce que le patient congolais est-il bien accueilli dans un milieu hospitalier? Regardez, mais il se met où? Il s'assoit où? Qui les reçoit?
L'accueil.
L'accueil de lui-même. Soit il y a des bancs fétistes, là il y en a encore. Et la personne qui reçoit le malade, généralement, il n'est même pas un infirmier, encore moins un médecin. C'est une personne non formée, d'après nos enquêtes d'ailleurs, non formée, qui reçoit le patient, renforçant encore le stress. Donc, dès le départ, là, vous sentez que le malade n'est pas sécurisé. Ensuite, le phénomène de l'argent. Dès l'entrée, vous sentez à tout niveau que si vous n'avez pas de l'argent, eh bien c'est la mort qui s'annonce pour vous, à tout niveau.
Professeur Félicien Moundaï, nous avons au bout de fil Dr Higuette Chika. Elle va également nous donner son point de vue, sa perception sur le sujet que nous sommes en train de débattre. Dr Higuette Chika, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du Centre de gestion des risques et d'accompagnement technique au Mutuel de Santé. C'est une Mutuel de Santé qui a été mise en place pour couvrir un paquet de soins aux patients congolais. Dites-nous, quelle est votre perception, votre entendement sur la relation qui existe entre patients et personnel soignant ici chez nous en RDC?
Oui. Ce que le professeur Félicien a dit, c'est exactement la réalité que nous vivons même au sein de nos mutuelles de santé.
Mmh.
En effet, on a un faible taux d'adhésion la plupart du temps parce que les malades se disent que quand on vient comme mutualiste, on nous met à côté. Les médecins ne nous donnent pas le bon traitement en disant que parce que nous, on est de la mutuelle, on n'est pas des payants cash, on n'est pas bien reçus. Et cela a un impact vraiment négatif sur la compréhension de la mutuelle et par les prestataires des soins et par les mutualistes.
Ça c'est déjà au niveau des mutuelles de santé, vos affiliés, lorsqu'ils vont dans les hôpitaux avec lesquels vous collaborez, il y a déjà cette crise relationnelle.
En fait, c'est une crise que nous gérons au quotidien.
Mmh.
Parce que au départ, il y a d'abord l'éducation qu'on reçoit. Les personnes qui sont engagées dans les hôpitaux sont des personnes qui viennent de notre société, éduquées par notre société, formées par notre société. Déjà, si l'éducation pose problème, vous comprenez que quel que soit le poste que peut occuper une personne qui a une insuffisance côté éducationnel, cette insuffisance va se manifester à chaque niveau de fonction que pourrait occuper cette personne. Pour ce qui est de la prise en charge des malades ou de la relation médecin-malade, c'est là en partie. Il y a des bonnes personnes, ça on doit se le dire, ce n'est pas une situation catastrophique sur toute l'étendue du pays.
Oui.
Mais malheureusement, c'est une situation qui existe et qui pose problème dans l'accueil. Vous savez, quand un malade se rend auprès d'un médecin, il n'a pas que besoin de comprimés ou de piqûres ou d'une opération. Il a d'abord besoin d'être rassuré. Vous pouvez recevoir un malade avec une maladie incurable, mais ce malade peut quitter votre cabinet avec le sourire simplement parce que vous avez pu le rassurer, vous avez pu lui parler. Cela s'apprend à la faculté quand on fait la médecine. Ça s'apprend aussi aux écoles des infirmiers, mais ça ne s'applique pas forcément. Et il y a un manque de suivi. Donc si déjà que cette commission d'éthique existe, je suppose qu'ils ont peut-être des inspecteurs, quelque chose comme ça, qui passent pour former ou pour suivre un peu la faisabilité des choses dans les hôpitaux. Mais c'est très important d'avoir un feedback directement des malades et pas que des prestataires, parce qu'ils peuvent ne pas dire toujours la vérité. Donc c'est une réalité qui empiète sérieusement sur la prise en charge et la qualité des soins dans notre pays.
Docteur Higuette, nous vous prions de rester en ligne. Nous recevons dans cette émission, professeur Félicien, des auditeurs qui interviennent de partout à travers la RDC. Nous avons déjà la première vague des intervenants. Nous allons donner la parole à Marcel Boto qui intervient depuis la ville de Kananga. Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur le sniper, bonjour aux invités.
Nous parlons de relations entre patients et personnel de santé. Quelle est la réalité qui se dégage au niveau de la ville de Kananga, dans les hôpitaux?
Oui, moi, la semaine passée, j'ai vécu un peu. Il y a un frère, un cousin qui était malade, mais il a la possibilité. Mmh. Nous arrivons dans un centre de santé privé. On a acheté la fiche. On a pu l'identité du frère. On est parti présenter ça chez le médecin. Le médecin a dit non, ça c'est un métier que nous connaissons de la ville. Il a des possibilités. D'abord, on a cherché une salle d'urgence pour lui. On a mis à côté. Mais avant d'arriver, nous avons trouvé plus ou moins 7 personnes qui étaient encore dans la salle d'attente. Là. Personne ne s'occupait depuis que le frère est entré. Déjà, gens s'occupaient seulement du frère comme il est connu avec ses activités, etc. Donc, nous, j'ai vu d'abord la négligence. J'ai commencé à faire une question. Mais qu'est-ce qui se passe?
Donc vous voulez dire, Monsieur Marcel, vous voulez dire qu'à votre arrivée, il y avait 7 personnes qui étaient arrivées avant vous et la personne que vous avez accompagnée a payé les frais qu'il fallait et il a été reçu en premier, c'est ça?
En premier, d'abord, tout le monde s'embrouillait parce qu'on les mettait qu'on est en ville, on ne sait pas. Maintenant, on fait quoi? On lui dit même maintenant, voyez, ici nous avons des soucis par rapport au paiement des médicaments. Mmh. Si vous avez beaucoup d'argent, on vous donne des médicaments spécialisés. Et si vous donnez peu d'argent, on va vous donner comme des paras et des choses là. Ça m'a beaucoup inquiété. Bon, j'ai vu, ils ont acheté des produits, parce que par là, on a dépensé plus ou moins 35 000 pour les médicaments. Rapidement après, et là, on a commencé à préciser le point. Je vous dis que nous avons fait plus de 2 heures à l'hôpital. L'infirmière titulaire là ne s'intéressait plus au patient. Alors moi-même, je suis parti dire à la dame qui était à côté de la réception, non. Vous ne pouvez pas vous regarder. Les enfants ici souffrent à côté. Vous négligez toujours par rapport aux frères. Moi, je suis de la société civile, je ne peux pas accepter de telles choses. Intéressez-vous d'abord aux enfants, sinon on peut perdre ses enfants. Et d'abord, les cousins ont déjà plus de 50 ans. Comment vous allez négliger les enfants? Ils ont déjà commencé à rigoler par rapport à ma pression. Et j'ai vu qu'une fois, elle est partie dire au docteur que non, le monsieur là, c'est quelqu'un de la société civile. Et il a remarqué mal notre appréciation par rapport aux malades. Bon, j'ai vu, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, on néglige un peu les gens qui n'ont pas de possibilités. Donc, les relations entre les gens qui n'ont pas de possibilités et les médecins sont un peu timides par rapport aux gens qui ont des possibilités. C'est ça le constat, parce que moi-même, j'ai vécu les faits.
Merci beaucoup, Marcel. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Restons toujours dans cette même ville pour donner la parole à Jonas. Monsieur Jonas, bonjour.
Bonjour, M. Taki, bonjour à tous les invités et les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Merci bien. Le sujet tombe à point nommé. À Kananga, il y a beaucoup de structures sanitaires. Mm-hmm. Il y en a qui répondent au dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Donc, vous allez voir l'extérieur très attrayant, c'est beau. L'extérieur vous attire, mais quand vous arrivez à l'intérieur... Bon, la première impression peut-être, c'est une pianteur, permettez le mot, où vous allez trouver certains hôpitaux, je vais taire les noms pour besoin de commodité, vous allez trouver quelqu'un est en état d'urgence, il faut vraiment les interventions urgentes. Et vous allez par exemple trouver les infirmières qui sont à la gare en train de se toucher, de se traiter des cheveux, comme si de rien n'était. Et, ou soit quand vous voulez dire, mais madame, il y a quelqu'un malade, est-ce que vous voulez intervenir? Mais nous avons déjà vu qu'il y a quelqu'un malade et on n'intervient pas. Moi, je dirais que cette négligence-là est aussi beaucoup dans la mort des patients. Alors, nous avons été personnellement victimes d'une agression dans un hôpital ici à Kananga. Il y a un hôpital catholique, je veux dire encore une fois le nom. Nous sommes arrivés, la patiente que nous avions conduite cette fois-là, elle avait passé une nuit là. On ne savait pas que notamment là, il avait posé un problème d'anémie. Bon, le matin, quand nous sommes allés, au lieu que le médecin qui était cette fois-là, le médecin directeur, c'était une dame, au lieu de nous dire que la nuit, nous sommes restés, nous avons placé une perfusion à votre soeur qui est tombée anémique, à peine arrivée, bon, elle était un peu hautaine là, cette dame-là. elle commence à nous agresser. Si, passez ici, donnez le sang. Passez ici, votre soeur est ennemie, on l'a précisé la nuit. Bon, après la veille, elle commence à nous traumatiser. Nous nous sommes dit, mais s'il vous plaît, madame, même s'il y a ce cas-là, est-ce qu'on ne veut pas normalement nous recevoir, nous expliquer normalement que voilà ce qu'il y a eu l'année avec vos soeurs. Mais dans cette agression-là, est-ce qu'il y a eu une imbroglio, on n'a même pas donné du sang. Heureusement, d'autres personnes sont intervenues et on nous a constatisé, on a payé du sang au labo, quoi qu'il y avait quelqu'un qui pouvait s'aider à l'unité du sang. Donc, nous, et fait, depuis cette fois-là, nous avions pris la résolution de ne plus cuisiner dans cet hôpital-là, quelles que soient les soeurs. Donc, moi, je pense que je vais demander à l'invité, quelle est l'utilité du ferment que prêtent les médecins ou les infirmiers avant d'entrer en fonction?
Merci beaucoup. Oui, allez-y rapidement.
La deuxième question, je termine par là. Est-ce que la déception vécue par certaines personnes à l'hôpital peut être aussi à la base de l'automédication chez les patients? Voilà les préoccupations que je ne passais pas l'esprit. Merci.
Merci beaucoup, Jonas. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Allons cette fois-ci dans la ville de Lubumbashi pour donner la parole à Jérémy. Monsieur Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jordi. Bonjour également aux invités.
Jérémy, quelle est la... Oui. Allez-y, allez-y.
Merci pour la pertinence de ce sujet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on assiste vraiment à une désorganisation totale dans ce secteur sanitaire, surtout avec les professionnels soignants qui ne sont pas vraiment mis à leur place. Parmi eux, il y en a qui n'ont plus pas la vocation pour laquelle ils sont appelés. On assiste à un dérapage total, M. Jordi. L'accueil pour les patients, loin d'être assuré. Bref, on assiste à une relation du personnel soignant qui manque pour la plupart la bonne conscience. Quand on aime son métier, je pense qu'on doit vraiment l'assumer en toute conscience, abnégation et avec un esprit impartial. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? On voit lorsque un patient arrive à l'hôpital, vraiment, il est marginalisé, surtout s'il est quelqu'un qui ne paye pas au comptant ou qu'il doit être dans une entreprise quelconque, il vient pour être pris en charge. On remarque aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment une coordination dans la manière de travailler. Je pense qu'à mon âme de la vie, il faut qu'on puisse mettre sur pied un atelier pour pouvoir mettre à niveau certains personnels soignants qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Comment voulez-vous un personnel soignant qui se présente au lieu de soins en étant ivre, comment est-ce qu'il va assumer son travail? Est-ce que le personnel, la hiérarchie, est-ce qu'il ne voit pas cette histoire pour remettre les choses en ordre? Un personnel soignant qui n'a pas un bon comportement, un personnel soignant qui se présente ivre, comment est-ce qu'il va assumer son travail? On assiste à un dérapage qui ne dit pas son nom. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans ce secteur, commencer par former ces personnels soignants. Vous allez voir dans d'autres milieux, on place un neveu qui n'a pas été formé, mais qui est là pour soigner les grandes personnes. Et je me demande, dans quel monde on se trouve, M. Ezobi? Dans quel monde on se trouve? Il ne sait pas les processus. Il est là, il est tantôt au fiche, tantôt il entre même dans les lieux de soins. Il a été formé. Et je pense que le ministère est en charge de la santé, doit ouvrir l'œil et les bons pour mettre vraiment de l'ordre dans ce secteur. Sinon, ça ne va pas. Et c'est pourquoi on a même des patients, ils rentrent, il n'y a pas une prise en charge correcte. Tout simplement.
Merci beaucoup, Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, merci beaucoup. Merci de vous. Oui, Monsieur Jérémy, merci beaucoup de votre réaction à chaud. C'est plutôt Tati qui est aux antennes, ici dans ces studios de Radio Kapi Kinshasa. Restons toujours dans la même ville de Lubumbashi pour donner la parole à Crispin. Monsieur Crispin, bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à notre invité, bonjour également à tous les auditeurs de.
Allez droit au but, Monsieur Crispin.
Oui, vraiment, c'est une thématique vraiment nous va tout droit au cœur. D'abord, je suis en train d'abord de compatir avec la famille, une famille qui est juste à mes côtés, qui a perdu l'un de leurs frères à cause de ce débat vraiment d'aujourd'hui. Ici, à Lubumbashi, vraiment, c'est compliqué, cher journaliste. Et dans ce secteur, il y a un problème, et je vois que ce problème doit être traité de tous les deux côtés, c'est-à-dire du côté gouvernement, mais aussi du côté patient. Pourquoi? Parce que la prolifération des hôpitaux, mais aussi des centres ici à Lubumbashi, est à la base de ces phénomènes. Ici,
vous allez voir qu'il y a même des centres de santé construits en bâche. Hein, c'est-à-dire quelqu'un, après avoir terminé ses études, il s'est dit dans ce secteur, il y a de l'argent.
Il n'y a pas de centre de santé viable, il construit son hôpital.
Oh, oui.
Avec les moyens des bords.
Avec ses moyens de bord, juste pour avoir de l'argent. Et dès que les patients arrivent sans matériel, la première des choses, c'est d'abord l'avocat. Donc, sans passer par les examens, il prend seulement des petits produits là et il met en place l'avocat. Et par après, il demande 40 000. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire dont je suis en train de vous relater?
Allez-y rapidement.
Mm-hmm. Oui, nous sommes arrivés à l'hôpital avec lui. D'abord, on nous a regardé, on s'est dit, mais ça, c'est quel type de famille? Si on voit que vous reflétez l'image d'une famille riche, là, on va, n'est-ce pas, s'approprier, on amène votre malade un peu dans des chambres pour les soigner plus. Mais si on se rend compte que non, les gens qui l'ont amené, ils sont des gens peut-être qui ne sont pas responsables, on les laisse là-bas et on commence à vous demander l'argent pour que vous puissiez, n'est-ce pas, les retirer et puis l'amener à la maison. Vraiment, ça laisse à désirer, paix à son âme, le monsieur est parti à cause de cela. C'est pourquoi je voulais un peu demander vraiment à notre invité, est-ce que réellement, pourquoi l'État est à la base de tout ça, donner cette crédité à n'importe qui? C'est pour sauver la vie des hommes ou bien c'est pour se faire de l'argent? C'est ça un peu mon interprétation d'aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ta réaction, professeur. Il y a également M. Chibola et Bondo Justin qui nous a écrit sur la page Facebook depuis la ville de Lomami, Kabinda. Il dit ceci: j'ai deux questions à poser aux invités. Est-ce que l'équipe cadre de l'hôpital général de référence peut-elle garder les cadavres du patient pour cause de non-paiement des frais des soins médicaux, comme c'est le cas dans notre hôpital général de référence de Kabinda? Nous sommes là dans la ville de Lomami. Sa deuxième question, il dit, dans un hôpital officiel qui fixe les frais de la prise en charge du patient, médical du patient, le gouvernement ou l'équipe de l'hôpital, parce que dans notre hôpital, les montants sont exorbitants, 64 000 francs congolais pour un adulte et 25 500 francs congolais pour un enfant. Professeur, les réactions des auditeurs et internautes vont presque dans le même sens. Il y a un sérieux problème au niveau de la prise en charge médicale. Marcel Boto qui parle, on ne respecte pas l'ordre de priorité, l'ordre d'arrivée à l'hôpital. C'est lui qui a de l'argent, on l'accueille en premier.
Mais c'est vrai, cette opération-là a un nom dans ces milieux-là. On appelle opération taxi.
Ah bon? Opération taxi.
Ah oui, c'est-à-dire pour arriver les derniers, il y a 20 personnes, tu appelles le monsieur qui est devant les 20, tu l'as dit, moi j'ai 5 dollars. Non, non, viens, mettez 10. Vous donnez 10 dollars, il vous amène tout droit devant le médecin. Laissez de côté même les personnes qui souffrent plus que vous, plus que votre malade. Mais vous, quand vous avez payé votre taxi, eh bien, il vous amène tout droit chez le médecin. Et cela existe effectivement. L'emprisonnement des malades, c'est même curieux d'ailleurs. Vous savez, certaines choses, ça. Ce sont les hommes politiques d'ailleurs qui vont délivrer ces personnes emprisonnées. Mais ce n'est pas normal.
Des femmes qui ont accouché.
Mais oui, on a vu les autorités, les députés, les ministres, les épouses des autorités, ils arrivent à l'hôpital, c'est eux qui délivrent les personnes emprisonnées. Donc, ils estiment que c'est bon qu'on garde ces patients insolvables à l'hôpital. Mais c'est inacceptable.
Ça. Et l'internaute qui a évoqué le fait qu'on retient les cadavres parce que les frais de l'hôpital n'ont pas été honorés.
Mais oui, il y en a beaucoup. Hein. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je ne peux pas en parler, je m'en fait hier, j'étais au clinique universitaire. Mais j'ai demandé au responsable qui est là. Il me dit, mais il y a des malades, des morts, pardon, qui sont abandonnés ici. Et on peut en sortir par mois, 70 ou 100, abandonnés. Et si c'est tous ces malades-là, tous ces morts-là, on les amène à la mort de l'hôpital de référence, et là, bon, il y a encore des tas d'autres décès, d'autres morts, et puis bon, on dépose, je ne sais pas où moi. Voilà. Mais donc, c'est un des problèmes très importants qui fragilisent l'humain Bomoto. Est-ce que nous avons encore, nous, Congolais, le sens du respect de notre propre corps, de ce que nous devenons comme humains, tout simplement? C'est tout simplement ça.
Et pour cette question liée à l'utilité du serment d'Hippocrate, je souhaite que ce soit docteur Higuette Chicag, qui est médecin, puisse nous répondre. Vous êtes en ligne, docteur Higuette?
Monsieur
Sylvain, Jonas Kabinda voudrait avoir une idée sur l'utilité du serment d'Hippocrate concernant l'accès aux soins de santé.
Le serment d'Hippocrate, si vous le lisez, il est très clair. C'est un peu, comment dire, c'est un peu les promesses qu'on donne à la communauté, mais aussi qu'on se donne à soi-même dans l'exercice de la pratique médicale. Mais seulement, sur le plan de la réalité, on n'a pas tous le même niveau de conscience. Et je ne pourrais pas entrer dans les détails, je ne connais pas tous les médecins et toutes leurs pratiques. Mais quand on se dit être médecin, on a l'obligation de respecter ce serment point par point, sans en oublier un seul.
Parce qu'à l'époque,
dans la réalité de notre pratique, on vit malheureusement tout le contraire. Et c'est là où le régulateur a sa place. C'est là où le professeur et sa commission ou son comité national de l'éthique a de la valeur. Parce que aussi longtemps qu'on va vivre sans sanction, sans rédévabilité, n'importe qui va faire n'importe quoi. On est dans un pays où vous avez en même temps une césarienne dans certaines contrées à $30, mais toujours dans les mêmes pays où vous pouvez faire cette césarienne à $5,000.
Oui.
Qui doit regarder ce prix-là, si ce n'est le ministère de la Santé et toutes ses directions à sa charge? Mais quand ils ne font pas leur travail correctement, je suis désolée de le dire comme ça parce qu'on vit tout à fait le contraire, ça crée tous ces désordres. Et le pauvre peuple se retrouve entre le marteau et l'enclume, il ne sait pas quoi faire. Il y a un monsieur, je pense, si j'ai bonne mémoire, de Kananga, Jonas, qui disait que ce niveau de déception encourage l'automédication et c'est la vérité. Je vous donne un exemple vécu. Un malade me vient après plusieurs rendez-vous chez le médecin pour des problèmes d'hémorroïdes. Mmh. Mais je lui pose juste des questions simples. Comment est votre alimentation? Est-ce que vous suivez les mesures hygiéniques qu'on explique? Il me dit, mais personne ne m'a jamais parlé de ça. Alors, vous comprenez que faire des hémorroïdes n'est pas forcément constitutionnel. Il y a plusieurs éléments autour de cette maladie qu'un médecin doit expliquer au malade pour que demain, la personne n'est pas de récidive.
Exactement.
Alors, quand il y a un praticien qui est gentil, qui est sympa avec les malades, il lui explique des choses genre il faut manger des légumes, il faut boire de l'eau, il faut faire des massages, il faut faire des
séries.
Et les malades trouvent satisfaction, mais bien sûr qu'il va dire à son voisin, ah, toi tu as des problèmes d'hémorroïdes, tu pars à l'hôpital, il n'y a pas de solution. La solution c'est chez l'herboriste ou je ne sais pas, le praticien. C'est encore bon si le praticien sait bien faire son travail. Mais d'un autre côté du revers de la médaille, il y a beaucoup de praticiens qui ne sont pas, disons, au point. Et malheureusement, avec beaucoup de conséquences encore sur la santé, au détriment toujours de la population. Donc, quelque part, si vous permettez, j'aimerais vraiment inviter par cette occasion nos autorités à prendre leurs responsabilités. On est en train de voter le Sénat, il y a plusieurs priorités, mais ceux qui sont en charge de la santé, ils doivent revoir ça. L'ordre des médecins doit revoir un peu où est-ce qu'on en est. Quand il y a des sons, des cloches comme ça dans toutes les provinces, on doit s'arrêter et se poser la bonne question et trouver la bonne solution.
Merci beaucoup, docteur Higuette. Professeur Jérémy, qui a intervenu depuis la ville de Lubumbashi, il a fait allusion à la qualité de la formation des prestataires de santé qui laisse parfois à désirer.
Mais d'abord, vous avez raison. C'est choquant dans notre pays. Regardez, mais vous avez combien de facultés de médecine dans cette ville, dans notre pays? Quand vous regardez très près,
presque toutes les universités créent des filières de médecine.
Voilà. Ouais. Hors norme, le recrutement d'étudiants ne suit pas des critères. Ces facultés, ou même les systèmes, parfois n'ont pas de laboratoire. Ils n'ont même pas d'hôpital de référence. Ils n'ont même pas de professeurs compétents pour donner cours à ces jeunes gens-là. Mais comment voulez-vous qu'ils soient compétents dans le milieu professionnel? Mais c'est impossible. Même on a parlé tout à l'heure là de problèmes liés à la compétence, des problèmes liés au comportement. Mais toutes ces questions-là, le gouvernement avait mis en place une structure pour atténuer, pour essayer d'humaniser ces relations que nous avons déclenchées au début.
Patient-malade.
Voilà.
Patient-prestataire des soins de santé.
Exactement ça. Mmh. C'est une relation déshumanisée où on le voit, les patients n'est pas au centre de la préoccupation des soignants. Il faut les restaurer. Et pour ça, dans les pays du monde entier, on se réfère à l'éthique, au comité d'éthique qui essaie de donner vie aux patients et qui accompagne les médecins. Et notre pays a toujours l'avantage d'avoir de bons textes. J'ai parlé du Comité national d'études de la santé qui a un arrêté reconnu au journal officiel depuis 2006 et qui est mis en place depuis 2014. Nous avons eu à former des personnes et nous avons eu à voir des affectations. Mais aujourd'hui, le ministère de la Santé publique, personne ne veut que ces gens-là congolais travaillent. C'est rigolo. Vous vous rendez compte? On a même des lignes budgétaires. On introduit des dossiers. Dossiers préparés même par la troisième direction des ressources humaines pour qu'on nous permette d'atténuer la souffrance des patients et donner un peu d'humanité aux médecins. Mais personne ne nous écoute. Premier cas. Il n'y a pas longtemps, je dis tout à l'heure là, que le chef de l'État lui-même avait évoqué, vous avez suivi, la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre les mentalités qui sont déplorables. Ça avait en fait la pauvreté éthique catastrophique. Mais dans les 100 jours, on a fait allusion à ça. Mais moi, j'ai trouvé un document, on ne répond pas de ça. Donc, vous pouvez aller aujourd'hui, si vous arrivez à la troisième direction, au secrétaire général, si vous arrivez auprès du secrétaire général à la santé, au cabinet, nous avons des tonnes et des tonnes de documents que nous avons
déposés. Le docteur Guette a évoqué aussi le fait de la fixation des prix, au fait, dans un hôpital,
voilà, très bien.
L'intervention de césarienne, c'est à 100$, et quand vous allez ailleurs, c'est à 5000$ dans une même ville.
Mais c'est même plus que ça. C'est même plus que ça. Mais posez la question, quels sont les critères pour fixer les prix à taxer, si vous voulez, à la famille qui doit prendre en charge un malade? Quelles sont les références? C'est difficile. Si vous avez aujourd'hui, il y a deux catégories. Et même par les façons de
professeur, il y a des auditeurs au standard, hein, donc nous leur donnons la parole, nous allons revenir à vous. Il y a un internaute qui dit ceci, que l'État congolais assume ses responsabilités vis-à-vis des corps soignants, d'équiper les hôpitaux avec les médicaments de qualité et aux responsables des hôpitaux de contrôler rigoureusement les services qui s'occupent d'entretien, parce qu'il y a parfois l'insalubrité qui bat son plein dans certains pavillons des hôpitaux, surtout publics. Lui, c'est Jonas Mbombo qui nous a écrit depuis la ville de Mbandaka. Donnons la parole à Germain Akili qui est à Butembo, au Nord Kivu. Monsieur Germain, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Nous vous écoutons, monsieur Germain. Allez-y.
Oui, je voulais d'abord poser la question au deuxième invité qui parlait du serment d'Hippocrate.
Oui.
Est-ce que réellement le serment d'Hippocrate a des limites selon la situation sanitaire que la population vit? Non. Ce que nous vivons au niveau de Butembo, depuis l'apparition de la maladie à virus
Ebola,
il y a une sous-forme de négligence vis-à-vis du personnel soignant. Et quand vous arrivez, les médecins ou les infirmiers ne respectent plus leur serment pour la prise en charge des malades. Là, on est complètement négligé et on soupçonne tout le monde comme personne vivant ou personne malade déjà ou atteint de la maladie à virus Ebola. Maintenant, est-ce que le serment a des limites pour ce qui concerne d'une situation à l'autre? Et de deux, est-ce qu'il y a une sanction prévue vis-à-vis de la mégestion ou du comportement du personnel soignant qui passe en dehors du serment? Ils ont prêté serment pour prendre en charge les malades sans tenir compte du frais que les malades vont payer. Donc, il se passe actuellement un comportement bizarre. Et c'est ce qui est même à la base de la résistance de cette maladie, de l'éducation de la maladie à virus Ebola. Parce qu'il y a une négligence vis-à-vis du personnel soignant. Au lieu de prendre la personne totalement en charge, on fait sous forme de négligence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sanction par rapport à ça?
Merci beaucoup, M. Germain Akili. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Butembo. Revenons ici à Kinshasa pour donner la parole à Pénépéné. M. Pénépéné, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis à votre écoute.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Ah, merci beaucoup. Ma question va tout droit à vos invités. Bon, peut-être chacun va se partager sa part.
Oui.
Toutefois, je voudrais dans un premier temps relever le fait que tous nos intervenants, même les propositions faites par vos invités, ne sont que des palliatifs. Je n'ai entendu personne qui a proposé une thérapie de nature à permettre au personnel soignant d'observer le principe de serment d'Hippocrate et afin de redynamiser son secteur de santé en RD Congo. C'est ainsi que nous nous estimons. D'ailleurs, moi, j'aurais souhaité qu'ils déclinent, je ne sais pas si ils ont commencé à prester dans le domaine de santé avant la colonisation ou c'est après la colonisation. Ça me permettrait de bien me situer.
Le professeur a bien posé le décor au début de cette émission. Peut-être que vous avez pris des cours, mais dès le départ, il avait déjà posé le décor. On ne peut plus revenir.
Merci beaucoup. C'est certainement qui répondrait selon l'orientation de la question. Parce que nous estimons que la solution de tout ce débâcle, du débâcle du secteur de la santé, parce que c'est tous les secteurs qui sont concernés, nous parlons aujourd'hui du secteur de la santé, ce débâcle-là ne pourrait avoir des solutions qu'en commençant par la tête. C'est que la tête aujourd'hui, c'est le chef de l'État, Félix. Donc, qui doit apprendre à se réconcilier avec les Occidentaux, doit réconcilier les Occidentaux avec les Congolais pour que les Occidentaux reviennent au Congo. De telle sorte que nous partageons les mêmes réalités. Ce sont ceux qui nous avaient appris à gérer les hôpitaux et à soigner. Ensemble avec eux, tout cela va s'incruster, s'imbriquer sans trop de difficultés. Mais,
Monsieur Fenepen, s'il vous plaît, ces notions s'appellent aux universités, s'il vous plaît. On a des grands enseignants de médecine ici en RDC.
Mais pourquoi cela depuis 60 ans? Pourquoi c'est l'observation reste la même? Tout ne fait que décliner. Pourquoi c'était le cas? Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas la formation et qu'il n'y a pas ceci. Tous les hôpitaux sont là. Pourquoi cela ne s'inscrit pas dans la constance du peuple congolais pour bien honorer le personnel soignant et même le peuple qui se sent soigné par son personnel? Il y a un problème d'ordre fondamental. Ici, c'est que nous cherchons des palliatifs. Alors que le diagnostic pour soigner un patient, le médecin passe par le diagnostic. Tout ce qu'ils disent là, ils n'ont pas diagnostiqué le problème. La cause ici reste le divorce entre Congolais et Occidentaux en 60. Nous devons vivre comme l'Afrique du Sud. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui les Noirs africains du Sud là-bas presque mieux. Parce que les Congolais qui quittent ici pour se faire soigner en Afrique du Sud, c'est tout le contraire. Les Occidentaux africains quittent pour venir se faire soigner ici. Aujourd'hui, c'est le sens que les Congolais vont se faire soigner. Ils trouvent les Noirs qui se prononcent mieux comme les Sud-Africains blancs. C'est-à-dire parce qu'ils sont ensemble. C'est tout ce qui doit être fait. Sinon, Félix aura trop de problèmes, il ne va rien faire. Même si une solution peut être trouvée, ce n'est que dans une certaine mesure. Et pas de nature vraiment à redorer la vie du peuple congolais de la manière qu'elle a rayonné avant 1960.
Monsieur Pénépéné, merci pour vos suggestions. Nous allons prendre, le professeur va répondre à votre préoccupation. Allons à Bandundouville cette fois-ci pour donner la parole à Jireste Emaka. Monsieur Emaka, bonjour.
Bonjour mon frère.
Nous n'avons plus assez de temps, allez-y rapidement. Quelle est votre préoccupation?
Moi, j'allais juste apporter une contribution en disant ceci, qu'aujourd'hui, la relation entre les personnes soignées et malades en RDC ressemble un peu à la relation entre deux femmes enceintes de près de 7 à 8 mois qui ne peuvent pas se porter au dos. Donc, vous voyez, les personnels soignants sont déjà malades.
Quelle analogie!
Le personnel soignant congolais est déjà malade aujourd'hui. Il souffre de toutes sortes de maladies. Prenons d'abord les maladies du secteur social. Donc, un médecin qui n'est pas bien payé, qui arrive à l'hôpital, qui même oublie son serment d'Hippocrate une fois devant le malade, qu'est-ce qu'il commence par exiger? Il exige l'argent. Même si le malade est mourant, le malade est à l'agonie, il commence par exiger l'argent. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est malade puisse s'occuper d'un autre malade? Moi, je crois qu'il y a vraiment des problèmes sérieux pour que la relation entre personnel soignant et malade congolais puisse s'améliorer. Et la solution ne peut provenir d'abord que du pouvoir central.
Merci beaucoup, M. Jireste. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. Donnons la parole à Dr. Huguette Chika. Vous êtes en ligne, docteur?
Je suis là, Tati.
Que répondez-vous à M. Germain qui intervient depuis Boutembo sur le serment d'Hippocrate? Il dit que les conditions de travail, depuis la résurgence de l'épidémie, la prévalence de l'épidémie de Ebola dans cette partie du pays, les conditions de travail des médecins ne sont pas très bonnes et cela ne leur permet pas de bien prendre en charge les patients.
Je vais essayer de répondre à M. Akili tout en donnant quelques pistes de réponse déjà à tout le monde sur ce qu'ils entendent par serment d'Hippocrate et d'autres conditions à réunir. J'ai l'impression que nos auditeurs ont juste tendance à jeter quand même la pierre tout le temps aux prestataires ou peut-être à l'État, mais je pense qu'il y a une petite nuance qu'on doit comprendre.
Docteur Riette, s'il vous plaît, il y a Jirès de Bandouville qui a fait une très belle comparaison. Il a comparé la relation entre médecin et patient comme une femme enceinte de 8 mois, personne ne sait porter personne. Donc les responsabilités sont en quelque sorte partagées.
Partagées, oui, mais il faut comprendre certaines notions. La réalité avec cette grossesse de monsieur Aymas à Bandoundou, c'est qu'on a un poids de pauvreté qu'on porte tous, que ce soit le médecin, que ce soit les malades. Vous pouvez trouver ça dans toutes les statistiques. Notre population est une population pauvre. Il ne faut pas qu'on voit les chiffres de certains riches de la place, mais la vraie réalité, c'est qu'on a un revenu autour $1. Par jour, par personne. Et cet argent ne peut pas nous permettre de vivre correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade, vous allez dans un hôpital qui doit payer des taxes, qui doit payer l'électricité, qui doit payer d'abord tout ce qu'il faut payer.
Oui, il doit faire face à des dépenses, motivation personnelle, paiement des loyers du courant, tout ça.
Exactement. Ces gens-là ne sont pas forcément subventionnés par l'État. Et s'ils le sont, c'est après des grèves et des grèves. Donc, vous comprenez que c'est d'abord aussi des gens qui sont censés vivre aussi.
Oui.
Pas seulement vivre, mais qui sont aussi censés fonctionner. Vous venez, vous êtes malade, il faut qu'on vous donne des traitements. Mais sans moyens financiers, comment est-ce qu'on achète des traitements? Vous venez, vous êtes en train de saigner, il faut que je vous fasse l'hémostase, il faut que j'arrête le saignement, il faut que je fasse un pansement, il faut que j'ai au moins des gants, il faut que j'ai le fil, il faut que j'ai tout ça. Aujourd'hui, vous venez, vous êtes pauvre, je le fais pour vous. Demain, un deuxième pauvre vient, je le fais pour lui. Mais qui remplace les intrants à l'hôpital?
L'État. En principe, il aurait fallu que les hôpitaux bénéficient des subventions et de l'appui du gouvernement, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire,
voilà,
exactement.
Voilà, j'aime bien le terme « en principe », mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est tout à fait différent. Donc, vous pouvez réellement avoir des médecins qui ont l'envie de soigner, mais qui n'ont pas les moyens pour le faire. Il y a aussi des préalables pour lesquels les gens doivent comprendre. Pour ce qui est de la situation de Butembo, qui est une ville que je connais assez bien parce qu'on a des mutuelles là-bas, et nos mutuelles souffrent de la période après Ebola également. Pourquoi? À cause du fait que pendant la période Ebola, la prise en charge était gratuite. Le fait qu'il y avait la gratuité des soins, c'était en fait l'OMS et tout le monde là qui était là pour appuyer, qui payait les intrants et les soins de santé. Mais maintenant que la crise est passée, il n'y a plus ces paiements gratuits. Donc les malades qui étaient d'ailleurs déjà habitués
à la gratuité,
à avoir une prise en charge gratuite, ne reviennent même pas dans la mutuelle parce qu'ils sont convaincus que la gratuité est éternelle. Et maintenant, quand ils doivent payer aussi à l'hôpital, ça pose problème. Je ne dis pas que c'est ça qu'a vécu M. Akili Germain forcément, mais c'est ça la grande réalité qu'on est en train de vivre. Il y a M. Balebele de Belebele, si j'ai bien compris, de Kinshasa, qui dit que tout doit partir de la tête. La tête ou le chef de l'État, il est le garant de la Constitution. On doit arrêter les croyances là que tout se fait sous l'impulsion. Quand on vous donne une fonction, vous êtes ministre chargé de tel, vous êtes l'exécutif, vous êtes censé faire votre travail. On ne peut pas justifier, si je peux appeler ça, l'inaction par le fait que le chef d'État n'a pas encore dit. Mais à quoi est-ce que vous servez? On n'a qu'à garder un président et aucun ministre, aucune direction. Comme ça, le président va tout faire. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que celui qui doit balayer la route pour que la route soit propre. Il faut que celui qui doit ramasser les ordures le fasse. Il faut que la maman qui fait les mikate fasse son travail. Il faut que chaque Congolais fasse bien son travail à son niveau pour que demain, on puisse s'en sortir.
Merci beaucoup, docteur Suka. Professeur, quelle solution pour améliorer la relation entre patients et prestataires de soins de santé dans nos hôpitaux?
Merci beaucoup. Nous avons suivi toutes les analyses, les interventions. Il se dégage clairement qu'il y a un manque, sans dire en éthique, un manque d'autonomie biologique et chez les personnes qui doivent s'occuper des soins des autres, donc les médecins, les infirmiers, autres, ils n'ont pas de moyens, ça on appelle le manque d'autonomie biologique. et le manque d'autonomie biologique détruit la morale et même l'éthique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contraindre à la personne qui a faim devant la nourriture de se comporter autrement que d'aller vers cette nourriture-là. Donc aujourd'hui, la solution, c'est d'abord une réflexion qui doit permettre de mettre en place et par les autorités la santé des Congolais. Quelle est la perception, quelle est la vision, que pense le gouvernement sur le bien-être des Congolais? Si le gouvernement a une politique claire sur la vision, sur le bien-être des malades, vous verrez qu'ils vont y apporter d'abord des budgets. Un infirmier aujourd'hui, il touche combien pour être correct? Un médecin touche combien aujourd'hui? On entend des faits de grève, des grèves.
Un salaire dérisoire, je veux dire.
Voilà. Dérisoire. C'est inhumain ça. On ne peut pas accepter ça. Il y a quelqu'un qui a comparé dans le Congo, notre pays, à la
France de l'époque.
Mais justement, regardez à l'époque comment le médecin congolais
était payé.
Comment les infirmiers étaient payés. Aujourd'hui, vous avez de la peine à arracher un sourire du médecin de l'infirmier. Pourquoi? Mais il est déjà frustré. Il y a des problèmes d'ordre vital, si vous voulez, chez lui, à la maison. Donc il faut que l'État prenne des orientations très claires et très nettes pour dire nous occupons en priorité du bien-être de la population. C'est-à-dire en accordant d'abord des moyens de survie, des moyens suffisants de survie à ces personnes qui gèrent nos santé. Ensuite, les infrastructures elles-mêmes. Les infrastructures. Regardez les hôpitaux aujourd'hui. Mais si vous allez dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Allez à Maman Yem là-bas, vous pouvez encore appeler Maman Yem parce qu'on est encore dans une situation incroyable. Des toilettes, allez voir les lits de malades. Mais est-ce normal ça? C'est pas normal, on doit même fermer des gens d'hôpitaux comme ça. Donc pour moi, nous pensons que c'est l'État congolais qui doit remettre en place une politique réelle avec une vision claire, permettant d'abord aux médecins, aux infirmiers d'être bien rémunérés, de travailler dans les meilleures conditions avec des factures suffisantes, et même aller copier ce qui se passe dans d'autres pays.
Merci beaucoup, professeur Félicien. Je le considère comme votre dernier mot. Nous disons également merci à Dr. Iguette Chuka. C'était très intéressant le débat. On pourra en parler très prochainement. Merci beaucoup et bonne journée à nos deux invités.
Merci beaucoup.